Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Turquie, à la veille du référendum de ce dimanche 16 avril, dont l'enjeu n'est rien de moins que le projet d'élargissement des pouvoirs du président Erdogan sur fond de réforme constitutionnelle, laquelle entérinerait la dérive autoritaire du régime. Malgré les moyens dont le pouvoir en place a pu disposer durant la campagne, des incertitudes demeurent quant à l'issue de la consultation. Les promesses de prospérité se sont évanouies et les mécontents du développement économique pourraient se mobiliser. Regard avec nos invités par téléphone depuis Istanbul, Jean-François Pérouse, géographe et directeur de l'Institut français d'études anatoliennes, auteur de plusieurs ouvrages, dont une biographie du président Erdogan, écrite avec Nicolas Cheviron. Jean-François Pérouse, bonjour.
Bonjour.
En duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France Isère, Jean Marcoux, directeur des relations internationales de Sciences Po Grenoble, bonjour.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Dorothée Schmitt, spécialiste des questions méditerranéennes, directrice du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de La Turquie en 100 questions aux éditions Talendier. Bonjour.
Bonjour.
Et Mouradjan Sabounjou, étudiant en droit à l'Université de la Sorbonne à Paris et président de l'Association des droits de l'homme de la Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
45 000 personnes emprisonnées, 130 000 fonctionnaires licenciés ou suspendus. Le président Erdogan a en outre confisqué environ 800 entreprises pour un total de 10 milliards de dollars. Il y a également 157 journalistes actuellement en prison. La purge à laquelle il est procédé depuis plusieurs mois maintenant, principalement depuis le coup d'État manqué du 15 juillet dernier, a fait fondre le miracle économique national, chute du produit intérieur brut, hausse du taux du chômage et dégringolade de la livre turque face au dollar. Pour ne parler que de la campagne électorale dans la perspective de ce référendum, Mouradjan Sabounjou, qu'est-ce que l'on peut dire de cette campagne et est-ce qu'elle a été le théâtre finalement d'un possible débat équilibré entre les partisans du non et les partisans du oui?
Je pense que pour que le oui et le non aient un sens, on aurait dû mieux pouvoir discuter sur le référendum. Discuter, je veux dire, honnêtement et librement. Alors que, comme vous l'avez très bien souligné, il y a aujourd'hui 157 journalistes en prison, dont mon père, le rédacteur en chef du quotidien turc d'opposition Cumhuriyet. Et je pense que la mise en cause de la liberté de la presse en Turquie remet sérieusement en cause la légitimité du oui ou de non à l'issue du référendum. Parce qu'on ne peut plus parler du pluralisme des médias en Turquie depuis un certain moment. Mais maintenant, dans le processus de ce référendum, qui va déterminer l'avenir de la Turquie, qui sera peut-être une rupture avec la tradition constitutionnelle turque, qui est plutôt axée sur un système parlementaire, parce qu'il a été déjà mis en place à l'époque de l'Empire ottoman, par la constitution de 1876, on aurait dû pouvoir mieux discuter là-dessus, je pense.
Alors, Jean-François Pérouse, vous êtes à Istanbul. Comment réagissez-vous par rapport à ce que Mouradjan Sabounjou vient de dire? La campagne, on dit que celle des partisans du non a vécu restrictions, intimidation. Jean-François Pérouse.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mouradjan a parfaitement raison. Une campagne qui est conduite de manière scandaleusement inégalitaire. Pour l'accès à l'espace public des divers partisans, pour l'accès aux médias, aux télévisions publiques. C'est une inégalité absolument flagrante. Et il y a par ailleurs des violences, des intimidations contre les partisans du non, et tout particulièrement évidemment en province. J'étais hier et avant-hier à Ankara. Dans certains arrondissements d'Ankara, le non n'a pas droit de cité. Par conséquent, effectivement, les jeux sont biaisés dès le départ.
Jean-Marcoux, une campagne comme on n'en a jamais vue, et que reflète-t-elle cette campagne finalement de l'atmosphère qui prévaut aujourd'hui en Turquie, ne serait-ce que par rapport à ce référendum du 16 avril?
Écoutez, la campagne a été expertisée d'une certaine manière déjà, puisque l'OSCE a expliqué que les partisans du non étaient dans une situation d'intimidation. Donc il y a, ce constat a été fait même par des organisations internationales. Ce que je veux dire, vous rappeliez effectivement les effets du coup d'État, hein, et notamment bon sur la fonction publique, sur la société civile turque. Je crois que depuis, cet effet du coup d'État était une accélération, parce que depuis plusieurs années, il y a une sédimentation autoritaire en Turquie. Rien qu'après le grand scandale de 2013, de décembre 2013, il y a eu déjà une épuration de la police et de la justice qui était sans précédent. Donc on est dans une phase, à l'heure actuelle, qui est un peu une phase d'accélération de ce processus d'intimidation de la société.
Dorothée Schmidt, ce référendum, finalement, d'abord, est-ce qu'il est bienvenu ? Et est-ce que la priorité de la Turquie est aujourd'hui de donner plus de pouvoir à Erdogan ?
D'abord, je pense que ce qu'a dit Jean est très important, que l'OSCE ait dénoncé avant même la votation l'inégalité de la campagne est très important. Mmh. On avait un précédent qui était les législatives de novembre 2015 qui s'était fait déjà dans un climat de quasi-terreur après un énorme attentat, notamment à Ankara, qui avait endeuillé la communauté des pro-kurdes. Et là, ce qui est très important, c'est que ça démonte le discours sur la démocratie parfaite, qui est le discours de Tayyip Erdogan. C'est-à-dire que ce référendum, il est censé, en réalité, faire avancer la Turquie à la fois sur la voie de la stabilisation et en même temps être un grand symptôme de démocratie, puisqu'on est dans un système populiste où la légitimité du président, du chef suprême, se retrempe sans cesse par des élections. Ce référendum en soi, c'est un référendum constitutionnel. Ça fait très longtemps qu'on parle de réforme constitutionnelle en Turquie. Muratcan pourra en parler puisqu'il est juriste, mais la Turquie, elle vit avec une constitution qui est une constitution issue d'un coup d'état militaire que beaucoup voulaient réformer. Et en réalité, l'AKP, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a dit qu'il allait changer de constitution. Sur votre question spécifique sur le timing, ce qui est intéressant, c'est que si vous parlez à des partisans du régime, en réalité, il aurait fallu le faire tout de suite après le coup d'état parce que là, ça aurait été très rapidement gagné, ce référendum.
Or, donc, là, dès septembre, en fait.
Voilà, là on est un petit peu loin peut-être, et donc on a beaucoup parlé de ce flou. En réalité, le dernier sondage montre qu'en principe, le oui devrait l'emporter. Mais au contraire, l'idée est que tout pouvoir et toute définition de programme politique pour l'avenir de la Turquie doit s'appuyer sur cet acte refondateur.
Muratcan Sabuncu, cette réforme constitutionnelle, quelle menace représente-t-elle et quels sont, à vos yeux, les aspects les plus dangereux de la réforme ?
Je pense que l'aspect le plus dangereux de ce référendum est la concentration des pouvoirs dans une seule main. Parce que la séparation des pouvoirs, qui est à la base de toute constitution, sera détruite en cas de oui suite à ce référendum. On parle souvent d'un système présidentiel. Au départ, la proposition était d'un système présidentiel, ce qui n'est pas le cas, parce que le caractère principal de tout système présidentiel, c'est la séparation stricte des pouvoirs. Alors que ici, comme dans les systèmes parlementaires, on voit que le président pourra dissoudre l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale pourra mettre fin aux fonctions du président. Normalement, on voit ça dans le système parlementaire où il y a la vote de confiance et aussi la dissolution, qui sont deux procédés qui s'équilibrent. Et après, je peux rappeler l'article 16 de la Déclaration des droits et du citoyen de 1789 qui est à mes yeux très important, qui souligne cela. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Ce qui veut dire que si le oui remporte au référendum, la Turquie n'aura plus de constitution. Ou peut-être, il y aura un bout de papier qu'on appellerait en anglais, fake constitution, une constitution de façade, factice.
Et aussi la question du judiciaire, la séparation des pouvoirs.
Exactement, parce que l'indépendance de la justice sera vraiment remise en cause. Il y a un conseil en Turquie qui s'appelle le Haut Conseil des juges et des procureurs, qui est à la tête de la justice en Turquie, disons. Et s'il y aura, suite au référendum, si le oui remporte, 12 membres élus pour ce conseil, 6 membres de ce conseil, dont le président qui sera le ministre de la Justice, seront nommés par le président directement, sans accord de l'Assemblée. Mmh. Et l'autre moitié sera élue par l'Assemblée nationale. Mais vous voyez que ça remet très très gravement en cause l'indépendance de la justice. Et alors, si on remet en cause l'indépendance de la justice, donc la séparation des pouvoirs, on peut aussi penser qu'il n'y aura plus de liberté. Parce que, comme je vous l'ai dit, Montesquieu, de l'esprit des lois, publié en 1788, il y a 269 ans, a parlé du fait que quand il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de liberté. Alors on peut dire que le pouvoir tend à corrompre, mais le pouvoir absolu corrompt absolument.
Les pleins pouvoirs pour Erdogan, c'est bien ce dont il est question à travers ce référendum, Jean-François Pérouse. Qu'est-ce que l'on peut imaginer de ce que fera le président turc de ses pouvoirs et de ses pleins pouvoirs?
Moi, je pense qu'en fait, bon, le régime de toute façon a changé. Le système autoritaire, il est en place. Donc, le référendum, mais comme le dirait Dorothée, hein, est une façon de plébisciter à nouveau Recep Tayyip Erdogan et d'entériner un état de fait. Les enjeux sont donc ailleurs. Sachant qu'on a quand même une constitution qui a été réformée depuis les années 1990, que ce toilettage se poursuit et que en outre, on ne touche pas, hein, contrairement à ce qui se dit, c'est pas un changement de régime, puisque de facto, il a plus ou moins eu lieu, hein, qui est en jeu là, hein, c'est vraiment de cautionner un état de fait et de permettre à Recep Tayyip Erdogan de se maintenir au pouvoir avec ses proches, hein, dans la plus grande immunité. Hein, je pense que c'est important de rappeler ce point.
Alors, Jean-Marc Roux, Jean-François Pérouse parle de la caution d'un état de fait. Il souligne l'idée que les enjeux sont ailleurs. Alors, où se situent les véritables enjeux?
Oui, je pense qu'il y a une consécration, en fait, d'une évolution qui est une évolution depuis plusieurs années, puisque de fait, et notamment depuis l'élection de Recep Tayyip Erdogan à la présidence au suffrage universel, ce qui était la première élection au suffrage universel en 2014, le régime est devenu une sorte, formellement, hein, sur le plan institutionnel, une sorte de régime semi-présidentiel, déjà dominé par la présidence. Donc, je crois que effectivement, l'objectif est un peu de consacrer cette évolution, de la légitimer par ce référendum. J'ai été frappé hier par une déclaration de Kemal Kılıçdaroğlu, leader du parti kémaliste, qui disait « Nous sommes en quelque sorte en train de changer de civilisation ». Et il comparait l'évolution actuelle à celle de la Syrie. Il disait « Nous critiquons à l'heure actuelle le régime syrien, mais en même temps, nous sommes en train de créer un régime qui est articulé finalement autour d'une personne qui ressemble finalement à beaucoup de régimes autoritaires et personnalisés en quelque sorte autour du président du Moyen-Orient. Il citait le Qatar et l'Irak et il disait bon, avant nous étions différents et le véritable enjeu désormais c'est un petit peu ce choix culturel, ce choix de civilisation qui est posé. Donc quelque chose qui est beaucoup plus vaste, j'irais simplement que le seul amendement, hein, qui sera proposé aux Turcs le 16 avril.
Dorothée Schmidt.
Je trouve que cette idée de sérénisation est très intéressante à filer comme métaphore, parce que moi, ce que je vois en Turquie aujourd'hui, si on la compare à un certain nombre de régimes du Moyen-Orient qui sont en train de se casser la figure, et la Turquie, comme vous le savez, est voisine de l'Irak et de la Syrie, c'est qu'on a un ébranlement des institutions de l'État. On a quand même un coup d'État raté l'année dernière, des purges massives dans l'administration qui sont en train de fragiliser le fonctionnement de l'État en Turquie. Et puis, un mécanisme de désagrégation sociale, avec effectivement un président qui a mené systématiquement campagne de façon très clivante, comme on l'a beaucoup dit, et aujourd'hui une société qui est partagée en micro-communautés concurrentes. Alors avant, on avait les grands antagonismes qu'on connaît classiquement de l'extérieur, entre Turcs et Kurdes, entre sécularistes et islamistes. Mais il y a aujourd'hui des clivages entre islamistes en Turquie. Et puis il y a, évidemment, avec après le coup, ces accusations massives de complotisme et d'organisation du complot qui ont été portées contre Fethullah Gülen, le fameux gourou qui est l'ennemi de Tayyip Erdogan. Et des clivages ethniques qui peuvent se révéler plus forts qu'avant, avec un certain nombre de minorités arabes en Turquie. Aujourd'hui, 3 millions de réfugiés syriens, dont on ne sait pas très bien ce que le régime va faire en réalité dans les mois qui viennent. Des clivages religieux qui pourraient se réveiller aussi entre sunnites et alévis. Et donc, une société qui est au bord de la décomposition avec un président qui ne veut pas du tout réorganiser de consensus parce qu'en fait, à chaque fois, il est du côté de la majorité. Donc, il est turc, il est du côté des nationalistes, il est côté des musulmans sunnites et tout le reste est systématiquement antagonisé.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, est-ce qu'il faut entendre, à travers ce que vient de dire Dorothée Schmitt, que finalement, ce référendum, Mourajan Sabuncu, je me tourne vers vous, il va totalement à l'encontre d'une sorte de pacification de la société. On évoque tous ces clivages entre islamistes. Voilà, est-ce que une société parfaitement clivée, ne serait-ce qu'au travers des partisans du oui, des partisans du non, finalement, un pays au bord d'une certaine implosion?
C'est bien sûr un risque, parce que la constitution doit normalement unir le peuple. Ça doit être la carte d'identité d'un peuple. Alors que, comme on le voit à travers la campagne qui est menée en Turquie, il y a une énorme confrontation de différentes idées politiques, des gens de différents points de vue politiques, de différentes ethnies, de différentes confessions, ce qui met vraiment en danger l'avenir de la Turquie. Par exemple, on parle souvent des enquêtes en Turquie. On dit que le oui remportera avec, disons, 54%. Le oui remportera avec 51%. Mais par exemple, une constitution qui est approuvée ou non, rejetée par le peuple, avec la moitié de voix, est-ce que ça va vraiment représenter le peuple turc? C'est ça les questions. Et si le oui remporte comme le veut Monsieur le Président, est-ce que ça va pouvoir rassembler tout le peuple? Parce qu'on critiquait souvent la constitution de 1982 d'être une constitution rédigée par les militaires après le putsch. Mais est-ce que cette constitution ne sera pas le fruit d'un putsch, disons, civil? Et représentera-t-elle donc le peuple turc?
Jean-François Pérouse, à la lecture de ce que vient de dire, plutôt à l'écoute de ce que vient de dire Mourajan Sabuncu, qu'est-ce que, puisque vous êtes à Istanbul, je le rappelle, quelle est l'atmosphère en cette veille de référendum en Turquie?
Elle n'est pas particulièrement tendue. Il faut bien voir que les Turcs ont des préoccupations qui sont d'abord matérielles. On a beaucoup de gens qui ont pour souci principal de gagner au quotidien leur vie. Hein. Il faut bien voir, et l'AKP joue beaucoup là-dessus. Hein. Ça, c'est très, très important, il faut bien le souligner. Hein. C'est une atmosphère en suspens. Hein. C'est-à-dire que bon, on sent que quelque chose peut arriver à tout moment. Il y a cette campagne qui n'a pas été une campagne très, très, très spectaculaire, qui a été une campagne, on l'a dit, inégalitaire. Et on attend. Quoi. On est plutôt dans une atmosphère hein, d'attente un peu inquiète hein, avec ceux qui pensent que la catastrophe arrive. Moi, je suis pas de ceux-là et ceux qui attendent de pouvoir triompher. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, on est encore en état d'urgence. C'est très important et juridiquement, peut-être que Mourajan pourra en parler. Organiser un référendum dans ce contexte d'état d'urgence, c'est limite. Hein. La légalité de ce référendum peut être interrogée. Les juristes le font ici en Turquie. Et puis aussi, il y a quand même quelque chose qui détermine la situation en Turquie, qui est la situation en Syrie hein, et en Irak. Il faut bien voir que les marges de manœuvre du président Erdogan sont aussi réduites. Hein. Sa crédibilité a été considérablement affectée, hein, disons, sur la scène internationale et en Syrie. Et donc, il y a aussi cet enjeu-là de se reconstruire cette crédibilité.
Alors, très rapidement, pour terminer cette première partie d'émission, Mourajan Sabuncu, un référendum organisé sous l'état d'urgence, pose question.
Ça remet en cause sa légitimité, bien sûr, mais aussi un référendum organisé quand le président du troisième parti politique de la Turquie, à savoir le HDP, le parti pro-kurde, Selahattin Demirtas, est en prison, ça remet aussi en cause la légitimité de cette constitution. Parce que est-ce que le HDP peut vraiment faire campagne si son président est en prison? On peut en discuter.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Mourajan Sabuncu, Jean-François Pérouse, Jean Marcoux et Dorothée Schmitt dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
géopolitique regard sur la Turquie à la veille du référendum de ce dimanche 16 avril, dont l'enjeu n'est rien de moins que le projet d'élargissement des pouvoirs du président Erdogan sur fond de réformes constitutionnelles. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Istanbul, Jean-François Pérouse, géographe et directeur de l'Institut français d'études anatoliennes, co-auteur d'une biographie d'Erdogan parue aux éditions François Bourin avec Nicolas Cheviron, en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère, Jean Marcoux, directeur de relations internationales de Sciences Po Grenoble, et à Paris en studio Dorothée Schmitt, spécialiste des questions méditerranéennes, directrice du programme Turquie Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de plusieurs ouvrages dont La Turquie en 100 questions aux éditions Thaïlandier, et également Mouradjan Sabunjou, étudiant en droit à l'université de la Sorbonne à Paris et présidente de l'association des droits de l'homme de la Sorbonne. Jean-François Pérouse, le référendum pose la question du kémalisme et de son projet modernisateur. Est-ce que tout cela va être définitivement enterré en cas de victoire du oui? Et est-ce que finalement aussi laïcité et arrimage à l'Occident sont aujourd'hui des orientations dépassées pour la Turquie, Jean-François Pérouse?
Dépassées, je ne dirais pas, mais déjà de fait, hein, remises en cause depuis plusieurs années. Et donc, on ne touche pas aux 8 premiers articles de la Constitution hein, dans ce référendum, il faut bien le souligner, les 8 premiers articles qui vraiment définissent hein, les grandes caractéristiques de cette République turque. Donc, il n'y a pas de volonté hein, de remettre en cause quand même les fondamentaux, mais ils sont mis en cause plutôt de fait hein, et par un certain nombre de décisions et de pratiques. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il faille annoncer hein, la fin subite. On a déjà hein, des évolutions sociétales et politiques hein, qui vont dans le sens, moi je dirais pas d'une marche arrière hein, ou d'une remise en cause radicale, hein, mais d'hybridation, de changements hein, qui sont plus, disons, conformes aussi à la sociologie de la Turquie et à son environnement régional.
Jean Marcoux.
Oui, je pense qu'il y a un enjeu quand même qui se dessine, qui me paraît important, parce que, comme le soulignait Mouradjan Sabunjou, en réalité, tout le constitutionnalisme turc s'est inscrit un petit peu dans une tradition occidentale qui remonte à la fin de l'Empire ottoman. Et quand on observe, malgré tout, malgré l'autoritarisme de certains régimes, malgré les coups d'État, quand on observe la Constitution de 1982, qui est issue effectivement du coup d'État de 1980, elle a été reformatée dans les décennies qui ont suivi à partir de standards européens. En particulier, je me souviens de cette grande révision de 2001, qui a été la plus importante en termes de nombre d'articles revus, en termes de contenu, puisqu'elle essayait de démilitariser la Constitution et elle nettoyait la déclaration des droits de l'homme de la Constitution. Or, là, quand on entend, par exemple, le président Erdogan évoquer un rétablissement de la peine de mort après le référendum, s'il est positif, on a quand même un sentiment qu'on est en train de finalement basculer sur le plan des droits fondamentaux et des libertés dans un régime, comme disait Jean-François Pérouse, effectivement, qui est hybride. C'est un peu la consécration de ce régime hybride qu'on voit se dessiner depuis plusieurs années, qui est véritablement en cause actuellement.
Alors, quelle place finalement pour la communauté internationale? Dorothée Schmitt, je me tourne vers vous. On a vu durant la campagne les relations se tendre très fortement entre la Turquie et l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne sur fond de réunions électorales à laquelle des ministres envoyés depuis Ankara entendaient participer. Vous évoquez cette montée de l'autoritarisme, on l'a bien compris, et finalement une sorte d'impuissance peut-être au niveau de la communauté internationale, et on regarde tout cela se passer sous nos yeux sans véritable capacité, non pas d'ingérence ni d'intervention, mais enfin Dorothée Schmitt.
Ce qui me semble intéressant dans ce qu'on est en train de décrire comme système, c'est qu'on le voit nous de l'extérieur en tant qu'observateur de la Turquie, critique de ce processus. Si vous vous adressez à des soutiens du régime, ils ont le sentiment d'être dans un processus de stabilisation, ils parlent de démocratie, et on sent bien que ce référendum constitutionnel a un gros potentiel de légitimation pour eux. C'est un vrai mécanisme de réflexion légale, on va avoir un vote. Bon. Et pour nous, en réalité, comme on vient de parler d'hybridation du régime, on a le sentiment que c'est un peu la fin d'un exceptionnalisme turc, précisément, où la Turquie est en train de basculer du côté obscur de la force. Et Pendant très longtemps, les gouvernements européens se sont abstenus de commenter politiquement ce qui se passait en Turquie, parce qu'on était dans un processus d'adhésion de la Turquie qui a été ouvert en 2005, qui a piétiné très rapidement, qui en réalité évolue très lentement. Donc pendant très longtemps, on s'est abstenu de commenter sur les évolutions internes en Turquie parce qu'on comprenait pas très bien quelle était la dynamique. Et puis je pense qu'il y a eu un grand moment de clivage. Bon, alors tout le monde sera peut-être pas d'accord sur le point de départ. Moi, je pense que Gezi, les grandes manifestations, les grandes mobilisations de Gezi qui ont été réprimées par la force, par le gouvernement turc, ont été vraiment un moment de point de bascule. Mmh. Et depuis ce moment-là, notamment le gouvernement allemand critique très fréquemment les évolutions politiques internes en Turquie. Et hier, on a quand même Wolfgang Schäuble, le ministre de l'économie allemand, qui a dit qu'il y avait un risque de dictature en Turquie. Et ça, c'est absolument inédit qu'on ait un officiel allemand qui s'exprime de façon aussi ouverte sur l'évolution turque. Et on sent très bien que ça fait peser un risque sur le processus d'adhésion interne. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, les Turcs demandent une réunion avec, après les élections françaises, ils souhaiteraient qu'il y ait un sommet euro-turc pour relancer l'adhésion. Et en réalité, on va probablement attendre que les processus électoraux, non seulement en France, mais en Allemagne, soient passés, pour remettre les cartes sur la table et pour discuter sérieusement de l'avenir de ces relations euro-turques.
Alors, on ne comprenait pas bien jusqu'à récemment la dynamique en cours et en marche en Turquie. Il me semble que là, les choses soient de plus en plus claires. Je reviens quelques instants sur la question du coup d'État avorté du 15 juillet dernier. 9 mois après, les questions restent entières. Est-ce qu'il a été vraiment fomenté par Gulen et son mouvement? Est-ce qu'il est le fruit d'une alliance entre les forces gagné par le mécontentement? Et question complémentaire, le coup d'État s'est-il fait sous le contrôle du pouvoir, comme cela est évoqué? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, peut-être Jean-François Pérouse ou Jean-Marc Roux.
Jean-François Pérouse. Question très délicate, mais oui. Moi je ne pense pas que ce soit une affaire montée de toutes pièces, mais ce qui est sûr c'est que le pouvoir l'a récupéré très, très tôt, à son avantage et admirablement, justement dans son effort pour se relégitimer. Mais néanmoins, il y a quand même des éléments objectifs qui prouvent bien qu'il y a eu une volonté d'un certain nombre d'acteurs, surtout au sein de l'institution militaire, d'en finir avec le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Mais ce qui est absolument disproportionné, c'est l'usage politique qui en est fait maintenant, et c'est la façon dont on réécrit le roman national uniquement maintenant en faisant référence à la résistance héroïque du 15 et 16 juillet 2016.
Jean-Marc
Roux ?
Oui,
à la nation totale, mais oui, à la récupération habile et jusqu'à la nausée même.
Jean-Marc Roux.
Moi, je pense que le coup d'État illustre aussi un phénomène qui est la transformation de la mouvance au pouvoir, qui était une mouvance assez large et assez diversifiée au départ, alors même qu'elle se concentre de plus en plus autour d'une petite nouvelle élite et de Recep Tayyip Erdogan lui-même. Parce que ce que montre le coup d'État, en fait, c'est un conflit à l'intérieur même de la mouvance au pouvoir entre Fethullah Gulen et les partisans de Fethullah Gulen qui ont été finalement un soutien très puissant dans la prise de pouvoir, du pouvoir d'État de l'AKP, et puis cet AKP qui se transforme, qui suit une voie qui n'est plus du tout celle qui était sa voie initiale. Donc je crois que c'est un peu le dernier avatar de ce conflit à l'intérieur même de la mouvance au pouvoir.
Finalement, Dorothée Schmidt, on pourrait presque résumer ce référendum par une question. Est-ce que vous êtes content ou pas content de l'AKP, quelque part? Quelques mots peut-être aussi sur le rôle des Kurdes dans l'élection. Dans le référendum, ils peuvent faire la différence.
Alors, est-ce que vous êtes content ou pas de Tayyip Erdogan? Même ça, c'est plus personnalisé, je pense. Là, vraiment, le référendum, ça s'y prête, c'est des consultations. On est vraiment sur du blanc-noir. Et là, encore une fois, Tayyip a fait campagne de manière très physique. Sur la question des Kurdes, bon, là, on sait que l'AKP avait récupéré une partie de l'électorat kurde conservateur depuis 2015, avec la rupture du processus de paix qui était engagé avec le PKK, donc avec les guérillas kurdes séparatistes. On a un véritable état de guerre au sud-est de la Turquie. On a deux questions très importantes sur les Kurdes, c'est comment les opérations de vote vont se passer, vont être organisées dans ces régions-là. On avait déjà le problème en novembre 2015 pour les législatives. Et puis, comment le marais kurde qui votait AKP va aujourd'hui se déterminer. Est-ce que ça, ces clivages extrêmement forts, cette agitation en permanence, parce que Tayyip Erdogan a fait alliance quand même avec les ultranationalistes aujourd'hui. Donc on a vraiment du Kurdish bashing toute la journée, la criminalisation du parti pro-kurde. On a expliqué tout à l'heure que les deux vice-présidents du parti sont en prison ou en cours de neutralisation par des procès. Donc est-ce qu'aujourd'hui, une partie des Kurdes qui votaient pour l'AKP vont cesser de voter pour l'AKP?
Muradjan Sabuncu.
Par rapport au coup d'État, on peut peut-être ajouter quelque chose. Le conseiller du président, professeur Hassan Nuri Yaşar, dans une interview qui date du 12 février 2017 au journal Habertürk, a défendu ce référendum constitutionnel en disant que le nouveau système mettra fin au coup d'État. Parce qu'il a défendu l'idée qu'il y a eu dans l'histoire de la Turquie 6 coups d'État à cause du système parlementaire. Alors si on passe au système présidentiel, il n'y aura pas de coup
on
d'État.
On sera tranquille.
Oui, mais ce n'est pas le cas. Parce que comme on le voit dans les pays d'Amérique latine, même dans les systèmes présidentiels, il y a des coups d'État.
Jean-François Pérouse.
Oui, juste à propos des Kurdes, hein, pour ajouter un point quand même qui est important. Et là, c'est toute l'habileté du pouvoir. Hein. Que l'on voit, c'est que parmi les réformes proposées, il y a une réforme qui ouvre la possibilité, disons, d'une restructuration des limites administratives internes à la Turquie. Et donc qui ouvre la possibilité de la constitution de régions dotées d'une certaine autonomie. Et c'est la raison pour laquelle une partie de l'extrême droite hein, va voter non. Parce qu'elle voit dans cet article une concession possible au particularisme kurde. Hein. Donc il y a toujours une ambivalence. Hein, et effectivement, la campagne se déroule de manière très nationaliste, mais le parti AKP, qui est un parti aussi kurde hein, par ses électeurs hein, et ses militants, sait qu'il doit tendre des mains hein, et faire des propositions aussi en direction des Kurdes. Et là, cette proposition est tout à fait habile dans cette stratégie.
Jean-Marco, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, on voit bien qu'il y a là un enjeu sur le vote kurde et j'ai été assez frappé hier par une déclaration d'Osman Baydemir, qui est ancien maire de Diyarbakır, qui est un peu la capitale du Kurdistan turc, qui disait « si jamais le oui l'emporte, le seuil de représentation, l'exigence d'un seuil d'influence pour être véritablement présent dans le régime va être porté à 50%. » Vous savez qu'il y a ce conflit sur le seuil de 10% exigé pour avoir une représentation parlementaire. Là, Osman Baydemir, en fait, par cet effet de langage du seuil de 50%, je crois essayer de mobiliser l'électorat kurde en lui disant « bon, il y a vraiment le feu à la maison et c'est vraiment très très important maintenant de se mobiliser pour le non ». Donc je crois que l'attitude de l'électorat kurde va être important aussi.
On va parler géopolitique. Alors, la rhétorique officielle nous dépeint un Erdogan fort. Est-ce qu'il est aussi solide qu'on le décrit? Et je poursuis ma question en évoquant la récente visite du secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, en Turquie, en pleine campagne tout de même pour ce référendum. Quelle lecture faire de cette visite en dehors du rôle de la Turquie dans la question syrienne? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit y voir d'une certaine manière un soutien de la Maison Blanche à Erdogan? Qui souhaite répondre à cette question? Jean-François Pérouse.
C'est pas vraiment enfin, ça peut être interprété comme une visite de soutien, mais enfin, il y a des dossiers très chauds hein, qui étaient à régler. Celui de l'extradition de Fethullah Gülen encore aux États-Unis, celui de la base d'Incirlik que continuent à utiliser les forces américaines pour bombarder en Syrie, hein, et celui de la stratégie hein, à adopter et de la possibilité d'une stratégie commune en Syrie même. Hein. Donc c'est vraiment pour traiter de ces dossiers chauds. Alors il y a peut-être eu des effets collatéraux, hein, mais enfin, c'était au cœur de cette rencontre. Hein.
Au cœur de la rencontre, bien évidemment, mais le calendrier tout de même prête un peu à confusion, Jean-Marcou.
Je ne sais pas s'il faut donner une telle signification à la venue de Rex Tillerson. Il y a des enjeux très importants sur les relations turco-américaines parce qu'elles étaient très dégradées à la fin de la présidence Obama. Recep Tayyip Erdogan s'est réjoui de manière tapageuse de l'élection de Donald Trump en expliquant que tout allait fonctionner beaucoup mieux, que désormais l'essentiel des problèmes allait être résolu. Or, on a effectivement remarqué lors de cette visite toujours une rhétorique qui était assez positive, alors même que sur le fond, rien n'a évolué, parce que bon, la question de l'extradition de Fethullah Gülen, bon, on n'a rien eu de très précis. Et un des enjeux aussi sur le terrain, c'est le soutien qu'apportent les Américains aux Kurdes syriens et en particulier aux pays grecs D et aux YPG. Mmh. Et là-dessus, bon, les choses n'ont pas évolué non plus, puisque les Américains ont continué à livrer des armes aux YPG, puisqu'ils continuent à soutenir effectivement les Kurdes syriens sur le terrain. Et surtout, je crois qu'il faut bien voir qu'il y a eu, il y a quelques semaines, finalement, un échec important de la Turquie en Syrie, parce que son offensive bouclier de l'Euphrate, qui était destinée non seulement à appuyer les rebelles syriens, mais aussi à empêcher finalement les Kurdes de s'installer sur les territoires libérés par Daesh, et à terme d'être la force de frappe vraiment pour aller libérer Raqqa et porter un coup définitif à Daesh, cette offensive a été bloquée notamment par une jonction des forces du régime et des Kurdes syriens. Donc l'influence de la Turquie, ce grand retour de la Turquie sur la scène syrienne a été bloquée et la Turquie a été obligée de l'accepter parce qu'elle ne peut plus avancer au risque de se trouver confrontée à des alliés des Américains et à des alliés des Russes sur le terrain. Mmh. D'ailleurs, le président américain Donald Trump a eu des contacts directs avec de nombreux leaders dans la région. Il n'a pas encore eu véritablement de contact direct avec Recep Tayyip Erdogan. Donc finalement, les espérances de Recep Tayyip Erdogan ont été quelque peu déçues et je pense que cette visite de Rex Tillerson était surtout faite un petit peu pour calmer un petit peu ses déceptions.
Dorothée Schmidt.
Juste un mot sur, historiquement, la relation entre la Turquie et les États-Unis, c'est une relation stratégique. Mais pendant très longtemps, cette relation, elle a été aussi tenue par les militaires. Et il y a aussi probablement une crise de confiance qui est liée à cet après-coup d'État avorté en Turquie. Les frappes américaines en Syrie ont été approuvées par Tayyip Erdogan, qui cherche à redonner un petit peu de contenu à cette alliance avec les États-Unis, mais ça le met du coup en porte-à-faux avec ses alliés russes, ses nouveaux amis russes. Donc la Turquie est vraiment dans des exercices d'acrobatie absolument incroyables au Moyen-Orient et surtout sur la crise syrienne.
Alors, exercice d'acrobatie, dernière question en guise de conclusion, finalement, si le oui au référendum venait à l'emporter, est-ce que l'on peut dire que Erdogan voue la Turquie à l'isolement, Jean-François Pérouse?
Non, je ne pense pas. En définitive, il ne contrôle pas grand-chose. Hein. On le voit bien sur le dossier syrien ou irakien. Donc, sa politique est gênée de toutes parts. Elle est maintenant aussi gênée par la situation économique. Donc, je ne pense pas que ça soit la fin et la catastrophe pour la Turquie si lui l'emporte.
Jean-Marco, vous partagez très rapidement?
Oui, je crois qu'il y a quand même le risque d'une certaine impasse parce que ce que disait Dorothée Schmidt est important. Hein, c'est savoir comment la Turquie va gérer un petit peu cette relation complexe et contradictoire avec d'un côté les États-Unis qui restent bon l'allié de l'OTAN et de l'autre côté la Russie qui est un petit peu ce nouvel allié souvent vanté mais en même temps avec des tas d'ambiguïtés dans cette relation. Faut pas oublier aussi que régionalement les relations avec l'Iran sont quand même difficiles. Que les relations avec l'Union européenne sont également difficiles, donc que les relations aussi avec le gouvernement kurde d'Irak du Nord, qui a été un des grands alliés de la Turquie ces dernières années, sont aussi chahutées à l'heure actuelle. Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement quels sont réellement les alliés sur lesquels la Turquie peut compter à l'heure actuelle. La politique étrangère de la Turquie à l'heure actuelle traverse une période d'incertitude à nouveau et peut-être même dans une impasse.
Merci Jean-Marcou, ce sera la conclusion de cette émission. Merci à tous nos invités, Jean-François Pérouse qui était avec nous par téléphone depuis Istanbul, Jean-François Pérouse qui est géographe et directeur de l'Institut français d'études anatoliennes, co-auteur avec Nicolas Cheviron d'une biographie d'Erdogan parue aux éditions François Bourin, en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère que nous remercions, Jean-Marcou, directeur de relations internationales de Sciences Po Grenoble, Dorothée Schmidt, spécialiste des questions méditerranéennes et directrice du programme Turquie Moyen-Orient de l'IFRI, La Turquie en 100 questions, et son dernier ouvrage aux éditions l'opposition thaïlandais, et Muradjan Sabunju, étudiant en droit à l'université de la Sorbonne à Paris et président de l'association des droits de l'homme de la Sorbonne à Paris. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à la propagande francophone de Daesh.